Voici que Jésus ressuscité se manifeste à ses disciples. Et quel est le sens, quelle est l'utilité de l'apparition du ressuscité? Je voudrais relever ce matin deux écueils dont nous sommes préservés par les apparitions du ressuscité. Le premier écueil, ce serait de croire que la résurrection ne serait que symbolique. Une résurrection qui ne serait que symbolique. Et on pourrait imaginer la résurrection symbolique de deux façons. Soit que le Christ ne serait pas vraiment mort. Alors s'il n'était pas vraiment mort, il n'aurait pas besoin d'être vraiment ressuscité. Ce n'était qu'une apparence. Il y a une hérésie dans les premiers siècles qu'on appelait ainsi le docétisme, qui disait que le Verbe n'avait pas vraiment un vrai corps, qu'il n'avait pas vraiment souffert. Mais alors, le Christ ne nous aurait pas manifesté le signe de son amour en partageant d'une part notre misère et aussi en aimant jusqu'à la fin. Ce n'aurait été qu'une apparence et non une réalité. Et le Christ vient donner justement un démenti à cette idée que son corps, que ce qui lui est arrivé, que la passion n'aurait été qu'une illusion en manifestant ses stigmates. Voilà les signes de la passion qui sont là, qui peuvent être constatés par les disciples. L'histoire a vraiment eu lieu. Ce n'était pas une illusion, ce n'était pas une illusion, une hallucination collective. Les traces, les stigmates sur le corps de Jésus manifestent la réalité de la passion. On pourrait imaginer aussi que la résurrection ne soit que symbolique en disant « en fait, il n'est pas vraiment ressuscité, il est simplement vivant dans notre souvenir ». Un peu à la manière des personnes antiques, où on disait « tant que les poètes chantent son histoire, alors il est vivant ». Et finalement, n'était-ce pas une belle histoire ? Il est vivant dans nos cœurs. Mais cela est démenti par le fait que Jésus donne à toucher à ses apôtres la réalité de sa chair et de ses os. « Touchez-moi », on pourrait traduire encore même « palpez-moi », « constatez que j'ai de la chair et des os » comme un esprit, c'est-à-dire un spectre, un fantôme, n'en a pas. Et Jésus va même aller plus loin en leur donnant de constater encore sa capacité à manger. « Est-ce que vous avez quelque chose à manger ? Il y a un peu de poisson grillé, il va le manger devant eux. » Ce n'est pas une illusion, ce n'est pas une apparence. Celui qui était mort est vivant avec un corps. S'il n'était pas vivant jusque dans son corps, eh bien nous ne serions pas non plus sauvés, puisque le salut d'un être humain, c'est un corps animé, c'est une âme incarnée. Il faut que le salut touche tout l'être humain pour que tout l'être humain soit sauvé. Et Jésus donne à constater la réalité de son corps vivant, de son corps ressuscité, uni à son âme. Donc le premier écueil que la résurrection, que l'apparition du ressuscité nous permet d'éviter, c'est de penser que la résurrection ne serait que symbolique. La mort a vraiment eu lieu et la résurrection de sa chair a vraiment eu lieu. Mais il y a un deuxième écueil que nous regardons souvent moins, que nous apercevons moins. Quel est-il ce deuxième écueil ? Ce deuxième écueil, c'est de croire que la résurrection, c'est finalement un retour à la vie telle que nous la connaissons. Le ressuscité vivrait comme on vivait avant, mais quand même en un peu mieux. Ça, c'était l'espérance des pharisiens. Les pharisiens avaient cette espérance de la résurrection des morts, mais ils se la représentaient comme un retour à la vie commune, simplement délivré des maladies, délivré du mal et de l'injustice. Si on était agriculteur et qu'on avait un champ, eh bien, le grain qu'on allait semer allait vraiment donner une belle récolte. Le soleil allait briller sur la terre, ni trop, ni pas assez. L'eau allait tomber en son moment et nous vivrions ainsi une vie paisible. Mais voilà que Jésus, ressuscité, manifeste autre chose. Autant avant la Passion, il a passé avec ses disciples 3 ans, 3 ans jour et nuit avec eux. En continuité, ils ont partagé tous les instants de sa vie. Autant Jésus ressuscité, maintenant ne se manifeste que ponctuellement. Les apôtres étaient réunis au Cénacle, et tout d'un coup, Jésus est là, au milieu d'eux. Jésus est là devant eux. Oui, imaginez, là, vous êtes rassemblés, vous étiez chez vous, à table, à dîner, et tout d'un coup, il y a un autre convive qui est là, il y a Jésus qui est là au milieu de vous. C'est le même choc pour les disciples. Et quand il est là, ils peuvent constater la réalité de sa présence, et puis il y a un moment où il disparaît à leurs yeux. Il n'y a plus exactement le même type de présence. Et en même temps, du coup, on voit que les capacités physiques, qui sont normalement les siennes, ont évolué par rapport à celles que nous connaissons. Parce que entre nous, voilà, si vous êtes dans une pièce, il a fallu que vous entriez dans la pièce. Donc vous êtes passé par la porte ou éventuellement par la fenêtre ou je ne sais quoi, mais vous n'êtes pas apparu tout d'un coup. Et si vous êtes sorti de la pièce, vous êtes sorti là aussi par la porte, par la fenêtre, je ne sais quoi, mais il a fallu une ouverture. Vous n'êtes pas simplement disparu à leurs yeux. Il y a une autre vie qui est présente, à la fois en continuité avec ce qu'on avait connu, mais il y a quelque chose d'autre, il y a quelque chose de nouveau. Et dans ce quelque chose de nouveau, Jésus nous introduit justement à une vie un peu différente. La vie de la résurrection, la vie du ressuscité qui sera la nôtre, est une vie qui est plus que la vie que nous connaissons maintenant. Elle est plus que la vie que nous connaissons maintenant. Et vous voyez que Jésus va les amener à franchir cette nouvelle étape, à entrer dans cette nouvelle étape, en diminuant un peu la présence dont ils avaient l'habitude. Alors on pourrait dire quand même, c'est vraiment pas ce dont on avait envie. On avait cru justement le perdre, il est revenu, et pourquoi est-ce qu'on ne peut pas le voir tout le temps? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas avoir la même présence comme on l'avait précédemment? Parce que Jésus nous introduit à autre chose. La vie du ressuscité, le partage de la vie divine, c'est la capacité justement à aimer comme Dieu aime, à aimer pleinement comme Dieu aime. Et quelle est la caractéristique de l'amour de Dieu? On pourrait s'amuser à faire une petite interrogation. Sortez une feuille et écrivez en deux mots ce que vous pensez, quelle est la principale caractéristique de l'amour de Dieu. Je vous laisse deux secondes pour essayer de voir quelle est la réponse que vous feriez. Quelle est la caractéristique principale de l'amour de Dieu? C'est sa gratuité. La gratuité de l'amour de Dieu. La bonté gratuite de l'amour de Dieu. Il y a quelque chose là qu'il faut remarquer parce que nous, dans notre expérience ordinaire, comment s'est développé l'amour? L'amour s'est développé d'abord chez nous en réaction. On nous a fait du bien et donc en retour, je t'aime. Je vais utiliser un mot qui n'est pas très joli, mais qui est pourtant la première étape de l'amour, et c'est normal. C'est ce qu'on appelle la reconnaissance du ventre. Quand vous avez un petit animal, que vous le nourrissez, il est content. Il va revenir vers vous parce que vous lui avez fait du bien, il a trouvé ça sympathique. Et c'est notre première étape. La première étape, c'est cette reconnaissance, cette gratitude par rapport à du bien qu'on nous a fait. Et puis il y a une deuxième étape où petit à petit on découvre qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Et ce n'était pas instinctif. Quand vous demandez à un enfant de 6 ans « c'est quoi ta joie ?»« Ma joie c'est d'amasser. » Vous voyez, quand il voit les jouets d'un autre, c'est « à moi ». Et ça aussi c'est « à moi ». Et ça aussi c'est « à moi ». Première représentation, la joie c'est d'amasser. Et puis on découvre qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Mais l'amour de Dieu, c'est encore un amour gratuit. C'est-à-dire qu'on pourrait dire qu'il n'était pas provoqué par quelque chose d'extérieur. Il n'était pas provoqué par « si je fais ça en retour, je sais que je vais obtenir mécaniquement ceci ». Il y a une gratuité, il y a une surabondance, il y a un débordement, il y a un élan. Et Dieu veut nous faire découvrir cet élan, veut nous faire entrer dans cet élan. Pourquoi est-ce que tu m'aimes? Pourquoi est-ce que tu me fais du bien? Il n'y avait pas de raison extérieure à moi. Et donc, Dieu va se cacher, justement, pour que nous entrions, nous, dans cet élan. Parce que tant qu'il est là, on va dire, c'est lui qui fait et nous, on suit. Comme il faut que nous nous approprions cette gratuité, Jésus se cache pour dire, bah, cette gratuité, c'est vous qui allez devoir la vivre. Moi, je ne suis plus là. Donc, c'est vous qui allez être mon visage. C'est en vous que va jaillir cet élan qui est l'élan de l'Esprit-Saint. C'est en vous qu'il va jaillir. Et moi, je vais me dissimuler pour que vous preniez cette responsabilité de laisser jaillir en vous cet élan de l'Esprit-Saint. Et c'est ainsi que Jésus n'apparaît que ponctuellement, jusqu'au moment de l'Ascension, où il va disparaître à leurs yeux. Et pourtant, il leur a dit « Je serai toujours avec vous ». C'est-à-dire qu'il veut être dans notre cœur, sur notre visage, pour que nous soyons pour le monde, justement, le visage de Jésus. Et il y a cette chose extraordinaire, justement, lorsque nous témoignons qu'un tel ou un tel a été pour nous le visage de Jésus par la gratuité de son amour, par la fidélité de son amour. Mais justement, c'est ça, c'est ce dans quoi le Seigneur Jésus veut nous faire entrer. Alors pourquoi est-ce que je souligne ça? Je souligne ça aussi parce que ce Jésus qui se cache, c'est à la fois vrai à l'extérieur, mais c'est aussi vrai dans notre expérience spirituelle de la prière. Comment ça? Peut-être que vous aviez vu à Pâques les baptisés de Pâques. Peut-être que vous aviez vu la joie des baptisés de Pâques quand vous avez parlé un peu avec eux après. Et il y a quelque chose qui parfois nous trouble un peu parce qu'on se dit « j'aimerais bien avoir cette même joie ». J'ai l'impression de toucher quelque chose, et ce quelque chose, c'est plus mon expérience, c'est plus mon expérience quotidienne. Et parfois on se dit, ça vieillit en moi, ça s'est couvert de poussière, ça s'est sclérosé. Alors qu'il y a autre chose. Pour les baptisés de Pâques, ils sont dans ce qu'on pourrait appeler une lune de miel de l'Alliance avec le Seigneur. Et c'est un temps qui est beau, c'est un temps qui est bon, c'est un temps qui est fondateur. Mais après, le Seigneur, justement, nous invite à entrer dans cette gratuité de plus en plus. Nous dispose à cette gratuité. Comment va-t-il faire? Ça va se présenter de façon très simple. Je dirais, dans la lune de miel, vis-à-vis de la prière, avant d'aller prier, j'ai envie d'y aller. Pendant, c'est super savoureux. Et après, je suis vraiment en paix. Petit à petit, le Seigneur va se camoufler. Et ça va se manifester, là où au départ j'avais un élan pour aller prier, je ne l'ai plus. Le Seigneur s'est comme caché. Mais quand je me mets à prier, c'est encore savoureux. Et puis après, je suis aussi en paix. Mais il y a eu un effort de liberté qui a dû augmenter, puisque là j'étais plus poussé par un élan comme un grand vent. Il a fallu que ma liberté se dise « je vais aller prier ». Puis le Seigneur peut nous faire encore avancer dans cette gratuité, c'est que je n'avais pas très envie. J'ai quand même fait le choix d'y aller. Au moment où j'y suis, c'est quand même pas très savoureux non plus. Mais je suis resté. Et puis après, je suis quand même en paix. Et puis le Seigneur peut encore purifier, nous faire entrer plus loin dans la gratuité. Et ce qui parfois justement devient un peu étonnant pour nous, parce que j'avais pas envie. Quand j'y étais, c'était un peu compliqué. Et à la fin, je me demandais, mais il y avait vraiment quelqu'un au bout du fil? Et quand on ne sait pas justement que le Seigneur est en train de nous préparer à cette gratuité, eh bien on se dit, j'ai perdu la foi, ma foi s'est éteinte. Alors qu'au contraire, le Seigneur me donne les conditions pour faire un véritable acte de foi de plus en plus gratuit. De plus en plus gratuit. Seigneur, je suis là au nom de l'Alliance que tu as bâti avec moi et dont j'ai la mémoire. Je n'en ai plus peut-être le sentiment, mais j'en ai la mémoire. Et à chaque fois que je fais cet acte de foi, de venir prier, d'oser, de demeurer dans la prière, eh bien je laisse grandir en moi, justement, par l'élan de l'Esprit-Saint, ma capacité à aimer, même quand c'est difficile. Et je verrai des fruits dans cette fidélité, dans cette capacité fidèle à aimer. Alors, est-ce que ça veut dire que plus jamais je ne connaîtrai la joie dans la prière? Alors, rassurez-vous, si on la connaîtra encore. Mais là encore, peut-être faut-il aussi la demander. Seigneur, j'ai besoin que tu me manifestes ta tendresse. À quand remonte parfois la dernière fois où nous avons prié le Seigneur en lui disant « Seigneur, j'ai besoin que tu me manifestes ta tendresse » et que nous lui avons dit « Je ne te lâcherai pas » que tu ne me l'aies manifesté. En prenant au sérieux le Seigneur qui disait qui prenait l'exemple d'une veuve là, qui casse les pieds d'un juge inique jusqu'à ce qu'il lui ait rendu justice. « Seigneur, je ne te lâcherai pas. » Parfois, nous sommes trop polis dans notre prière. « Seigneur, si tu as le temps, je sais que tu es occupé, pense à moi. » Non, Seigneur, je ne peux pas vivre si je ne sens pas à certains moments ta tendresse. J'ai besoin, comme j'ai besoin de respirer, comme j'ai besoin de boire, j'ai besoin d'un clin d'œil de ta tendresse. Et ces clins d'œil nous seront donnés. Frères et sœurs, en ce troisième dimanche de Pâques, entrons dans ce que le Seigneur veut nous faire découvrir, à la fois la réalité de sa résurrection et en même temps jusqu'où doit nous mener cette vie nouvelle, cette vie plus que la vie, cette vie portée par l'élan gratuit de l'amour. Osons dire au Seigneur à la fois, « Seigneur, je veux apprendre cette gratuité de l'amour » et de plus en plus librement dire, « Je veux te suivre, je veux aimer gratuitement. » Mais aussi, de ne pas hésiter également régulièrement à lui dire, « Seigneur, manifeste-moi ta tendresse, car sans elle, je ne peux pas vivre. » Amen.